La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Tati, tatata, bonjour tout le monde, bienvenue dans la midinale de Radio Piquet ce 30 mai 2022, en direct de Brest, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous avons autour de la table Marion.
Salut tout le monde.
Nous avons Kevin.
Salut.
Et nous avons Nico.
Salut tout le monde.
Et Seb pour la technique, et qui en fera pas plus. Alors, dans l'ordre, comme on avait dit qu'on commençait, ce qu'on s'est un peu vu avant, je crois que c'est Nico qui va commencer aujourd'hui.
Oui, d'accord.
T'es d'accord? Tu vas nous parler de quoi, Nico? Il me semblait que t'as plein de sujets intéressants.
Comme d'habitude, je rigole. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, mais c'est un gros livre qui s'appelle « La société qui vient ». Ça s'est sorti en début d'année. C'est sous la direction de Didier Fassin, qui est un chercheur sociologue à l'EHESS. Donc, comme son nom l'indique, c'est une espèce de prospective sur les grandes tendances de notre société et voir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Gros bouquin avec une quarantaine de contributeurs et teuses. Si j'ai bon, grosso modo, ils ont divisé le bouquin en quatre parties, enjeux, politique, reconnaissance, etc. Bref, c'est une espèce de panorama sur toutes les grandes questions, sur l'hôpital, sur la jeunesse, sur la vieillesse, sur le territoire, l'âge, sexualité, donc c'est très complet. Voilà, moi je vais juste vous parler d'un sujet qui est le racisme. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le racisme et fait partie intégrante de notre État, de notre société. Pourquoi j'en parle ? Parce que y a quelque chose qui est intéressant, je trouve. Il y a eu un débat ces derniers mois pour supprimer le mot race de la Constitution de notre République. Je rappelle comment c'est marqué dans notre Constitution. Donc là, je lis un extrait d'un des chapitres du bouquin qui a pour thème laïcité. C'est un chapitre écrit par Valentine Zuber. Elle rappelle ce qui est marqué dans l'article 1er de la Constitution de notre République, la Constitution de 1958. Voilà, je lis, c'est l'article 1er. « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et bien en fait, il y a un projet de la part de l'État, des autorités politiques, de supprimer le mot race. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, c'est l'idée que les races n'existent pas, les races au sens catégorie biologique, catégorie scientifique, ça n'existe pas. Du coup, supprimons-le. Mais en fait, ça pose un gros problème quand même derrière, parce que, certes, on est d'accord, les races n'existent pas. Mais je vais rappeler une citation qui est utilisée dans le bouquin, là, une citation de Colette Guillaumin, qui était une militante féministe, une chercheuse féministe très importante dans les années 60-70 et jusqu'à aujourd'hui, qui disait cela dans un bouquin qu'elle a écrit en 72, qui s'appelle « L'idéologie raciste ». Elle disait « La race n'existe pas, mais elle tue quand même des personnes ». Donc, bien sûr, biologiquement, la race n'existe pas. Mais elle a des effets, réels, politiques et sociaux. La race, en tant que concept, tue. Il y a des gens qui l'utilisent, qui pensent que ça existe déjà, la catégoriser et hiérarchiser l'humanité en race. Et bon, voilà, on peut se poser la question. Supprimer le terme dans la Constitution, est-ce que c'est pas une certaine manière de supprimer le problème derrière et de faire croire qu'on est dans une société où tout va bien? Alors, moi, je vais parler, du coup, à partir de l'introduction que j'ai faite, là, j'espère que j'ai été clair. Voilà. Je vais parler d'un texte qu'il y a dans ce gros bouquin qui est sur la police. Et le chapitre du livre dont je vais parler, il s'intitule ainsi. Les violences policières et l'inaction de la justice, un racisme d'État. Point d'interrogation. Parce que, pour être clair, si on suppose que la race au sens biologique n'existe pas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas vraiment de racisme, quoi. Et encore moins de racisme d'État. Vous me suivez, hein. Alors, on vit dans une société où, par exemple, le président Macron a dit, je ne sais plus quand, il y a un an, les violences policières n'existent pas. La police ne peut pas être violente. Donc parler de violence policière, c'est faux. Ça, c'est les propos de Macron. Du coup, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi la vision qu'ils ont, en fait, quoi, qu'il a, le président de la République, en l'occurrence? Et du coup, on pourrait dire, derrière, c'est les autorités actuelles. Qu'est-ce qu'ils ont comme vision des choses? Quoi, je sais pas, dire que la violence policière n'existe pas, c'est quand même assez fou, quoi, quand on y pense, quoi. C'est une espèce de déni de la réalité assez, assez dingue. Je pense pas qu'il soit stupide. Il a dû voir des images de forces de police en train de matraquer des gens dans la rue, d'envoyer des LBD. Donc, je pense que, je sais pas, il doit se dire, il y a des gens, des policiers, des gendarmes, des militaires qui utilisent quand même des armes et qui font preuve de violence. Alors, pourquoi il en vient à dire la violence policière n'existe pas? Eh ben, en fait, ce qu'il faut interroger, c'est l'idéologie derrière. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est la même. Pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe, ce qui joue derrière dans les termes qui sont utilisés par les puissants.
Parce que pour lui, c'est de la violence légitime et donc elle n'entre pas dans une catégorie de violence illégitime, condamnable et réprouvable.
Ouais, bien sûr, mais d'accord. Mais en fait, là, il fait une utilisation. Du coup, si on parle de violence légitime et de violence illégitime, il fait une utilisation de ce concept-là, de cette notion de violence légitime, qu'il va chercher chez Weber, qui n'a jamais dit, qui ne parle pas de violence légitime, lui. Il parle de revendication de la part de l'État d'utilisation de la violence, et qu'il la légitime par là face à une autre utilisation de la violence. La définition de Weber, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une définition dynamique, quoi. L'État s'est accaparé le monopole de la violence. Donc il y a de la violence, en fait. Légitime ou pas légitime, légal ou illégal, il y a de la violence de la part de l'État. Donc voilà, c'est une fausse utilisation par Macron et le gouvernement, et on va dire les dominants, du travail de Weber. Je pense pas qu'il soit idiot, Macron, hein. Je pense que juste derrière, il affirme des positions idéologiques et il essaye de faire passer la pilule. Bon, bref, ça c'était en introduction. Donc ce chapitre-là qui se pose la question du racisme d'État, je vais lire quelques passages. Parce qu'en fait, pourquoi derrière, en fait, c'est un enjeu dans les milieux militants. Il y a une partie de la gauche, de camarades, on va dire, qui... Comment dire ça ? Qui refuse de parler de racisme d'État, de racisme structurel. En fait, en ça, il rejoint les positions de Macron et des dominants en disant en fait, la race n'existe pas. Regardez, en fait, on n'est pas autant d'États clairement racistes qu'il y a eu dans l'histoire, quoi, le fascisme italien ou le nazisme hitlérien, où en fait, là, il y avait un racisme d'État, c'était marqué dans les lois, il y avait une discrimination affichée vis-à-vis de certaines catégories de la population. il y avait une politique qui s'en suivait, etc. Non, là, la France, c'est pas ça, ça n'existe pas, c'est pas inscrit dans la Constitution, etc. Et du coup, on évacue, en fait, tout un tas de problèmes qui se posent, et qui sont réels, quoi. Il y a des gens qui meurent par les forces de l'ordre, il y a des gens qui se font éborgner, etc. Les enquêtes sont claires là-dessus, quoi. Qui sont les premières victimes des forces de l'ordre? C'est souvent les gens issus de l'immigration, issus des quartiers populaires, etc. Bon. Voilà. Donc poser la question du racisme d'État, elle est très importante. Peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est peut-être évident pour vous, hein. J'en sais rien, mais... J'ai l'impression que il faut essayer de comprendre comment sont utilisés les mots, à quelle fin, et ça nous permet en fait après de mieux comprendre ce qui se passe et de pouvoir agir, tout simplement. Alors ce chapitre, il pose la question: est-ce qu'il y a un racisme d'État? Alors je vais en lire quelques passages. Donc voilà, c'est parti. La police est certainement l'institution de l'État dont le rôle et les pratiques sont les plus contestés aujourd'hui par les mouvements sociaux dénonçant les discriminations. Depuis quelques années, il y a quand même une très forte contestation du rôle de la police. Ça a apparu sur le devant de la scène publique. Le mouvement des Gilets jaunes l'a montré avec force, quoi. Voilà. Il y a tout un tas de mouvements, du coup, qui posent la question de l'existence même de la police, en posant, par exemple, des questions: faut-il la désarmer? Et même plus loin, faut-il l'abolir? Alors, je continue la lecture du chapitre. Les contrôles aux faciès et les violences policières à caractère raciste sont dénoncés depuis les années 60 par les associations d'immigrés. Donc c'est quand même assez vieux quand même, hein, comme question. Ça a apparu là assez récemment dans la sphère publique plus large, mais c'est un combat qui a été porté donc par les associations d'immigrés. Il a fallu attendre 2005 avec le décès de Ziad et Bouna, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui sont morts, ils étaient poursuivis par la police et ils se sont fait électrocuter. Et ça a déclenché un fort mouvement dans les banlieues, quoi. Ça a déclenché des émeutes. Et à ce moment-là, dans les banlieues et dans la population issue de l'immigration, il y a eu un renouveau de mobilisation sur ces questions-là. J'ai très très soif. Est-ce que quelqu'un peut me servir un verre d'eau? J'ai la langue sèche.
Si tu demandes, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Je continue. Je continue la lecture de l'article. Il y a une sociologue qui s'appelle Rachida Brahim qui a retracé l'histoire de plus de 700 crimes racistes en France depuis 1973 jusqu'à 2003. Donc il y a eu plus de 700 crimes racistes en France. Mais ils ne sont jamais reconnus comme tels. Jamais. Les enquêtes officielles sont vite fermées. Et qui fait les vraies enquêtes, après, derrière? C'est les familles concernées et c'est les militants. Alors, ces crimes sont clairement racistes, parce qu'ils concernent des personnes immigrées, des anciennes colonies françaises. Et du coup, derrière, il y a la vision, les personnes immigrées sont un danger. Sont un danger pour la nation, pour la société. Donc il y a un racisme inconscient, en fait, derrière. Pourquoi il y a quelque chose qui est intéressant dans le livre. Pourquoi, en fait, il y a une espèce de déni, comme ça, du racisme inconscient de la société française. L'article, il fait une supposition que je trouve très importante. C'est qu'avec la fin de la guerre d'Algérie, la fin de la colonisation... Bon, on aurait réglé le problème, en fait. On aurait réglé le problème d'un racisme lié à la colonisation. Et du coup, comme il y aura la fin de la colonisation, il n'y aurait plus de racisme. C'est un déni, hein, c'est un mécanisme de déni. Je continue. Face aux révoltes de 2005, je lis l'article, l'État a réagi en recrutant des policiers issus de l'immigration, des policiers noirs ou maghrébins, en se disant « ça va pacifier les choses ». En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le contraire, puisque ces policiers ont subi eux-mêmes le racisme de la part de leurs collègues. Et quand ils dénonçaient ce qui se passait, eh ben, ils ont subi de fortes pressions pour se taire. Alors après, là, j'ai parlé de pratiques policières, et après, il y a un problème avec aussi la justice et son inaction. La justice ne fait rien, ou très peu de choses. Il y a quelque chose qui a évolué dans les dernières années avec comme on appelle, vérité et justice. Il y a eu surtout l'action de la famille Traoré qui a mis en lumière en fait la force des violences policières et le racisme structurel derrière. Donc je rappelle, en juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, meurt dans le cadre d'une intervention policière où il est fait usage de la technique du plaquage ventral. La police invoque une fragilité cardiaque pour expliquer son décès. À ce moment-là, sa sœur aînée, Assa Traoré, fonde le collectif Vérité pour Adama. Il y aura plein d'autres familles qui ont connu les mêmes choses, qui vont fonder des comités. Ensemble, ils forment le réseau d'entraide Vérité et Justice. C'est eux qui font des actions en justice, c'est eux qui font des enquêtes. Bon, voilà, c'est un gros boulot qu'ils font. Derrière ce réseau, du coup, il y a la dénonciation d'un racisme structurel. D'un racisme structurel au sein de l'État, d'un racisme d'État. Et du coup, la notion de racisme d'État est réapparue avec leur combat. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est l'article dit, c'est que cette mobilisation, elle est internationale. Elle se passe en France, là, mais elle se passe aussi aux États-Unis. Avec ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd en 2020. Avec le mouvement Black Lives Matter, etc. Là, il y a une dimension internationale de ce combat-là. Avec à noter l'utilisation de téléphones portables qui ont permis de voir l'action de la police. Et là, tout d'un coup, ça éclatait devant tout le monde. On ne pouvait plus voiler la face. Ce qui est intéressant, du coup, c'est cette notion de racisme d'État. À quoi elle nous sert, en fait ? Elle nous sert à montrer que, bah, en fait, c'est pas la peine d'être un État totalitaire comme il y a eu, comme le fascisme italien ou comme le nazisme hitlérien, pour avoir des pratiques de racisme structurel. D'accord ? On est d'accord avec ça. Ce qui est intéressant dans le cas français, c'est que, du coup, le racisme, il est lié à sa colonisation et à l'esclavage derrière, un peu comme aux États-Unis. Mais il y a un déni de la part de l'État français. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une intentionnalité raciste des policiers ou pas ? Il semblerait que oui, hein, puisque les enquêtes prouvent que la plupart des victimes des violences policières sont les personnes racisées. Donc ça prouve bien quand même qu'il y a un racisme structurel. Ce n'est pas des bavures individuelles, c'est pas voilà, des dysfonctionnements à la marge, c'est structurel. Donc la notion de racisme d'État, là je cite l'article, elle est intéressante parce qu'elle va poser des questions assez simples qui vont montrer la force quoi, de ce racisme structurel. C'est quoi les questions ? Je cite l'article. Que se cache-t-il derrière ce désir de sécurité réaffirmé à chaque élection ? Première question. Désir de sécurité. Depuis des années, la sécurité est devenue le problème numéro un. Mais là, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, ils en font leur première priorité. Est-ce que ça ne cacherait pas derrière un racisme d'État. Autre question, les personnes issues des immigrations postcoloniales sont-elles en sécurité face à la police? Bah, là, la réponse, elle est claire. Non, elles ne sont pas en sécurité puisque c'est les premières victimes. Donc ça prouve bien qu'il y a un racisme d'État. Troisième question, y a-t-il des vies qui comptent moins que d'autres? Eh bah pareil, là la réponse est assez claire. Oui, il semblerait que pour une partie des forces de police, et du coup pour l'État en général, pour les autorités politiques, il y a des vies qui comptent moins que d'autres. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer. Mais tout ça pour vous dire, moi ça me semblait important en fait de parler des termes et des mots, d'essayer de les définir clairement. J'espère que j'ai été clair. Mais la question derrière, c'est, je reviens à mon introduction, cette volonté de supprimer le mot race dans la Constitution en disant on est tous d'accord, biologiquement il n'y a pas de race, etc. C'est une façon hypocrite de supprimer les problèmes réels que subit une grande partie de la population. Voilà.
Oui, puis c'est oublier peut-être aussi l'histoire culturelle de chacun. Un peu différente suivant les endroits quand même. Hein. Tu peux rappeler le titre du livre là, sur lequel tu t'es appuyé?
C'est La société qui vient, donc gros bouquin de sociologie, mais pas que, sous la direction de Didier Fassin. Donc ils essayent de voir les tendances à venir de notre société. Tiens, juste pour finir là-dessus,
allez,
ça commence, il y a une petite citation en exergue du livre pour montrer un petit peu où on en est dans notre société qui vient. Il cite le film de Mathieu Kassovitz, La haine. Jusqu'ici, tout va bien.
L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, merci Nico. Eh bien, tu voulais un autre sujet ou t'as trop soif?
Non, j'ai trop soif, mais j'en parlerai une prochaine fois. C'est que juste dans la suite de l'article sur le racisme d'État, bah, y a un petit chapitre qui s'appelle le sexisme d'État. Avec cette idée que, bah, pareil, en fait, cette notion de sexisme d'État, elle est intéressante pour essayer de comprendre bah, les enjeux que traverse notre société. Moi, j'avais jamais entendu parler comme ça, en fait, du problème des discriminations de genre, on va dire. J'avais pas encore rencontré cette notion, sexisme d'État. Et eh ben, de la même manière qu'il y a un racisme d'État, je pense qu'il y a un sexisme d'État. Mais j'y reviendrai une autre fois.
Ok. Bon, pour passer à un autre sujet, on va revenir aux luttes. On aime bien les luttes, nous. Et comme on parlait de racisme d'État, on va voir ce qui se passe aussi un peu ailleurs qu'en métropole. On a reçu un appel par mail à diffuser, qui est un appel à l'ouverture d'une zone agricole différente pour se défendre face à la décharge et son monde. Alors, pour recontextualiser la chose, c'est un appel qui arrive de Guyane, où en fait, il y a une décharge de déchets non dangereux, comme ils appellent ça. Bon, c'est en fait une décharge de toutes nos poubelles à nous, hein, qui doit être fermée. Et du coup, bah, l'État cherche à en monter une nouvelle, quoi, évidemment. Et ils n'ont rien fait mieux que choisir une zone agricole où il y a tout un tas d'agriculteurs, agricultrices qui s'y installent depuis quelques années pour faire entre autres aussi du bio. Et le gouvernement cherche à modifier le PLU qui concerne cette zone pour pouvoir installer sa déchette, quoi. Donc évidemment, bah, c'est depuis 2017 apparemment qu'ils sont en lutte contre ça. Pour dire un peu où ils la mettent, entre autres, sur cette zone agricole, la décharge serait positionnée le long du fleuve Kourou, qui est en amont d'une zone de captation d'eau qui sert à alimenter en eau potable la plupart des zones côtières de Guyane, quoi, où il y a le plus de monde qui y habite, quoi. Donc c'est voilà, donc on imagine bien, c'est des déchets non dangereux, mais à mon avis, quand l'eau traverse cette zone et puis après arrive dans la zone de captation, je suis pas sûr que l'eau reste potable très longtemps. Donc ils sont, donc comme je l'ai dit, en lutte depuis 2017. Ils avaient sorti une première pétition à cette époque-là, qui avait quand même récolté presque 3000 signatures. Et là, ils se relancent dans la lutte. Ils continuent parce que bon, il y a des, ça arrête pas. Et je vais vous lire quand même le rappel. C'est la lutte finale. Appel à zone agricole différente, au volon terre pour le soulèvement libère terre, car nous sommes terre rien. Voilà, ils font beaucoup de jeux de mots dans leur texte, ça va être dur à vous le lire correctement. Donc c'est un manifeste de riposte à l'agression consumériste. Ils attaquent, on se défend, légitime, nous, décroissantes, qui vivons d'autres futurs désirables et présentement instantanés, invitons tous les humains et toutes les humaines, et plus encore, à lutter dans la non-violence, la joie et la bienveillance, en réquisitionnant des terres spéculées, gravitant autour du projet privé de décharge de sécher environnement en Guyane. Donc projet privé, mais bon, financé, j'imagine, demandé par le gouvernement quand même. Au programme du débarquement des utopistes debout pour l'éveil des consciences et l'objection de croissance, à l'assignation à l'hyperconsumériste néo-capitalogarchique, consumez-vous, concentrez-vous. Nous sommes ce que nous ingérons. Il n'y a pas de déchets dans ces systèmes vertueux, il y a transformation, évolution. Ce mot n'a pas de traduction dans le langage des cultures amazoniennes. Loin des yeux, loin du cœur, repolitiser le sphincter de cette société technocrate suprémaciste, SOS, ça déborde. D'autres possibles existent, souverains, respectueux, cohérents et harmonieux. L'argent ne se mange pas, le pouvoir dans l'achat, la consommation a du sens, l'engagement ne détruit pas. L'engagement écologique des consommateurs et consommatrices fait société. La prospective nous invite à agir pour ne plus subir. C'est le système qu'il faut changer, pas l'écosystème. Lire et relire la réponse du chef Seattle aux colons dans le mi-19e siècle. La Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Événements, rencontres, expos, festivals. Le mois de juin lance le démarrage de la lutte face à l'ouverture par la mairie de Kourou de la consultation publique en vue de modifier le PLU pour déféquer une décharge au cœur d'une zone agricole majeure et singulière de la Guyane. Voilà un peu le contexte. Et avec cet appel, hein, donc ils ont lancé une nouvelle, on vous mettra le lien évidemment, une nouvelle pétition en ligne. Est-ce que je vais vous relire le texte, parce que bon, ça reparle un peu de tout ça, c'est peut-être un peu plus précis dans le texte, parce qu'il parle quand même de la problématique aussi de la gestion des déchets en Guyane, hein, qui est une problématique comme partout. Donc ils disent, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la gestion des déchets en Guyane est une nécessité. Donc la principale zone de stockage de déchets non dangereux de Guyane doit maintenant fermer, nos décideurs et élus doivent prendre des décisions. Ces décisions, donc ce collectif en parle maintenant depuis 4 ans, mais rien de bon ne semble se dessiner. En effet, un groupe privé souhaite s'installer au cœur même du quartier agricole de Wayabo. Donc voilà, si vous cherchez des infos, ça s'écrit W-A-Y-A-B-O. En plein cœur d'un quartier agricole où de nouveaux agriculteurs et agricultrices s'installent encore. Donc cette installation aura bien sûr des conséquences sur les agriculteurs et tris situés aux alentours et potentiellement sur l'alimentation des Guyanais. Donc eux, ils avaient aussi proposé des solutions, hein, signé une charte avec une grande partie des acteurs, actrices du monde agricole en 2018, afin de pouvoir établir des règles à respecter avant la mise en place de toute installation, comme celle prévue à proximité des quartiers agricoles. Parce qu'eux, ils avaient trouvé d'autres endroits où cette déchetterie pouvait être installée sans que ça impacte l'écosystème, la vie des gens, mais bon, apparemment, la mairie de Kourou s'emballe les steaks. Ces règles ne seront donc pas respectées. Aidez-nous à montrer aux décideurs et aux élus que nous ne voulons pas stocker nos déchets au milieu d'un potager déjà existant. Et donc là, il rappelle bien, hein, que le fleuve Kourou est à proximité de cette future installation de stockage de déchets non dangereux, dit ISDND. Et voilà, et donc la fameuse station de pompage, comme j'en parlais avant, qui dessert une grande partie des villes de Guyane, est située juste en aval. On nous racontera toujours qu'il n'y a aucun risque, mais le risque zéro n'existe pas. Voulons-nous une potentielle crise sanitaire, comme a pu le vivre les Antilles, seulement parce que nos décideurs n'ont pas anticipé la fermeture de l'ISDND de Cayenne à temps? Voilà, donc ils appellent à les aider à se protéger. Et ça, c'est donc signé de l'association courroucienne des agriculteurs de Wayabo. Donc on vous mettra le lien de cette pétition en ligne. Je pense qu'on... Dans le mail qu'on a reçu, hein, ils l'ont envoyé à différents médias, parce que même des petits comme nous, parce qu'apparemment l'information on la trouve nulle part. Je suis même allé voir sur des sites comme reporter.net ou Basta, pour l'instant on ne trouve rien sur cette histoire à Wayabo. Donc on vous invitera par la pétition à la rediffuser le plus massivement possible, parce que c'est pas parce qu'on habite en métropole qu'on ne va pas aller se battre ailleurs, hein, nous. On le sait bien, c'est des enjeux mondiaux. Voilà, quoi dire de plus? Rien. Je pense que c'était déjà... Merci à la personne qui nous a envoyé le mail pour nous mettre au courant de cette lutte. Parce que voilà. Bon, ben moi j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant. Je vous propose qu'on termine cette première partie, qui était tout et pas rien, un truc dans le genre. Et on va faire une petite pause musicale, parce qu'après il y aura d'autres musiques prévues en deuxième partie, où on va parler essentiellement et uniquement de la lutte au sein des EHPAD, à Brest et ailleurs, j'imagine. Enfin, beaucoup à Brest, mais ça a l'air de s'étendre un peu partout, de toute façon. Donc là, on va s'écouter Colette Magny, qui a suivi beaucoup de chemins, et on vous rejoint tout de suite après.
J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. Partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire, et de grands pédants de la cantonade qui regardent, se taisent et pensent qu'ils savent, parce qu'ils ne boivent pas le vin des tavernes. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopins de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, passent et rêvent, et qui, un jour, comme les autres, reposent sous la terre, reposent sous la terre.